Non, je te jure, c'était un certain nom comme ça. Tout le monde sur le set, s'il vous plaît. Bonjour, chers amis auditeurs, vous écoutez donc Radio FMR. C'est pas moi qui vais faire l'intro, bien sûr, mais c'est juste pour vous dire que le supplément week-end, aujourd'hui, étant un dossier spécial qui était prévu à l'avance depuis un bail, nous avons exceptionnellement ne pas parlé de l'actualité brûlante qui a eu lieu cette semaine, qui est assez lourde, où on apprend finalement qu'une suite de Star Wars, ou théoriquement hein, quand même George Lucas avait dit à la fin du film Luke sauve la galaxie, donc il y a pas besoin de faire une suite, c'est complètement inutile. Et comme disait Stéphane Sommier de BFM Business, George Lucas est très fort, il a réussi à vendre à Disney 4 milliards du vide, ce qui est normal pour un film qui se passe dans l'espace, je vous dirais, mais c'est aussi le prix, la capitalisation à laquelle Disney a racheté Marvel. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine, donc ce sera Thomas qui s'y collera et qui lira la presse spécialisée et pas les échos, s'il vous plaît, hein. Je veux le Wall Street Journal et compagnie, tu auras tout le reste. En attendant, je pense qu'aujourd'hui, ça va être plutôt méga sexy et cool. Et je vais en souffrir d'ailleurs à la réalisation. Ah non, sérieux, sérieux. Bon, tout le monde en place, voilà. Prêt ? Moteur !
Ça tourne ! Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 3 novembre 2012. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Jeannot Dead et à 17h, FMR, cette l'antenne à Booster FM sur 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le film d'action que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Non, parce que Sacha, tu vois, qui prend sa guitare électrique pour booster.
Non, mais Xavier, tu saoules. Hein.
Bah,
bon, ça va. Et la blague, c'est bon, on l'a entendu. Sacha, pendant la chronique, ouais. Et puis Sacha, imaginez Sacha de Bourpalette qui, et puis après, on la rediffuse, et puis du sport, il a pris le café, donc il a pas écouté, Sacha, ma blague, Sacha. Alors, en plus, vous avez pas Xavier, vous, en préparation d'émission au téléphone. Ah, j'ai une super blague, c'est Sacha qui joue de la guitare électrique. 5 fois, je l'ai écouté, cette putain de blague dans la matinée.
Je peux désannoncer le morceau?
Oui, vas-y, pardon.
Qui veut écouter mon disque? Les studios FMR présentent, en collaboration avec Supplément Weekend, Ultimatum. Du sport. But when you smile, sushi. Oh, et The Screech dans that I can hardly wait to hold. Supplément week-end spécial James Bond. Bonjour à toute l'équipe, merci à tous.
Hello.
D'être là pour donc c'est vrai que à l'occasion de la sortie de Skyfall, mais surtout pour les 50 ans de la franchise James Bond au cinéma, il fallait
bien conserver le mec. Hein.
Bien conservé, on avait déjà fait une spéciale à propos du reboot cinématographique avec Daniel Craig
et Casino Royale, c'était en 2006 déjà, ça ne rajeunit pas.
Ça ne rajeunit pas. Je l'ai même pas réécouté. Mais à mon avis,
moi
je crois
plus.
Que déjà à l'époque, on a été relativement, enfin, on avait fait quelque chose qui était pas mal. Et je pense que là, malheureusement,
on a quand même un nombre de pages de script qui vaut bien plus qu'un scénario pondu par Rémi Julienne.
Attends,
je rappelle quand même que le gag de cette émission, c'est que dans les années 70 et les années 80, les scripts des James Bond, c'était Rémi Julienne qui écrivait d'abord les cascades et ensuite on fait une histoire autour. Donc voilà.
Ah mais je vois que t'as je viens de découvrir le script à l'antenne.
C'est sympa tiens.
Non mais c'est bien parce que ça, j'aurais pu me dispenser d'écrire quoi que ce soit parce que c'est assez complet en fait ce que t'as fait.
Ouais non mais c'est pour ça que j'ai rien fait moi.
Sushi, tu me rassures, tu la caution féminine, tu as parlé des femmes avec la retenue qu'il faut.
Un petit peu. On verra. Si vous êtes sage.
Des promesses. Je te parie qu'elle a rien fait.
Je vois qu'il y a des notes magnifiques.
Ne présumons pas.
Je vais de ce pas.
Non mais c'est pas un problème, on va quand même un petit peu se débrouiller. On est allé voir donc le film et la première chose qu'il y a à dire, c'est que comme d'habitude, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui aiment pas, et dans l'émission, il y en a un qui, pour qui la franchise James Bond au cinéma, ça lui fait ni chaud ni froid.
C'est moi.
Tu feras le vilain.
Il vaut mieux l'avouer maintenant. Hein,
il va faire le vilain parce qu'on fait toute la progression, on fait toute l'histoire et tout. On le fait plutôt bien. Et j'avais demandé quand même.
Alors, on précise quand même avant que notre fan numéro 1 absolu de James Bond qui participe dans l'émission occasionnellement n'est pas là aujourd'hui, qu'il s'agit de JB.
Ouais.
Voilà, donc.
Je suis fan aussi.
Salut à toi.
Je dédie cette émission à mon papa qui n'en a jamais loupé aucun, même Moonraker, il dit c'est bien, il est distractif.
D'accord.
C'est vous dire, d'ailleurs, Moonraker qui a été le James Bond de la franchise qui, en dollars constants, a fait le chiffre le plus minable. Hein,
ah ouais?
Ouais, tout à fait. Donc quoi, on n'arrive pas à voir les gens n'importe comment. Enfin bon, bref. Tout cela pour dire que on va peut-être un petit peu parler, avant de parler de Bond lui-même, on va peut-être parler de l'auteur qui est derrière, à savoir Ian Fleming.
Ouais, un petit peu. Donc Ian Fleming qui était plus ou moins un terrain conquis, on va dire, parce que ce qu'il décrit dans ses romans, c'est il commence à écrire à sa retraite, et sa retraite, il faut dire qu'avant, c'était un type qui travaillait pour l'armée et en particulier pour l'intelligence service, et ce avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a bien connu, on va dire, les arcanes de ce qu'il décrit un petit peu par la suite. Alors il fait comme pas mal d'anglais relativement fortunés. On va dire, on sait que l'Angleterre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est en crise, mais alors énorme. C'est-à-dire, il n'y a plus de pognon, bon, c'est normal, c'est la guerre. Ajoutez à ça un climat pendant l'hiver 46-47, puis 47-48, qui est absolument monstrueux, quoi. Il a fait une vague de froid, mais alors énorme. Ticket de rationnement pour le peuple, pas beaucoup à manger, des difficultés à trouver du travail, malgré le fait qu'il y ait une reconstruction à faire. Les Allemands avaient un petit peu détruit pas mal de parties de l'Angleterre, en particulier Londres, en balançant pas mal de bombes. Et donc, Ian Fleming, lui, s'installe en Jamaïque. On sait que d'autres l'ont fait également. Il était d'ailleurs voisin d'un certain Errol Flynn, avec qui il partageait souvent des petits verres à boire, et peut-être pas que des petits verres à boire.
J'avais pas ce détail, j'avais d'autres détails sur là où il est, on en parlera tout à l'heure.
Alors il commence à écrire donc son premier bouquin, un peu moins d'une quinzaine qui sont sortis, dont deux qui sont sortis post-mortem, c'est-à-dire après sa mort, hein. Les deux derniers, l'homme au pistolet d'or, The Man with the Golden Arm, en 65, Ian Fleming est mort en 64, donc, et Octopussy and the Living Daylight, c'est-à-dire que, en fait, c'était pas un roman entier, c'était un roman, enfin, on va dire, une nouvelle assez longue, plus d'autres nouvelles plus courtes.
Ce sont souvent des nouvelles, d'ailleurs, qu'il a écrites, et d'ailleurs, pour les films, à une exception près, je crois, qui est une écriture complètement originale, tout le reste, en fait, soit des nouvelles, soit en fait ils essaient de fusionner des éléments de nouvelles dont certaines déjà adaptées.
Ouais. Bon, alors on va y revenir. Alors le premier, c'est Casino Royale, qui sort en 53 en Angleterre, en version anglaise, mais qui ne sort que 11 ans plus tard. C'est-à-dire que il y a déjà eu 3 bandes qui sont sorties sur les écrans en version française, donc Casino Royale.
Sous le titre de Espion, faites vos jeux.
Non, Casino Royale. Mais bon, Royal au masculin, quoi. Parce que bon, Ensuite, on a Live and Let Die qui sort en 54, l'année suivante, et également en 64 en version française. Puis c'est Moonraker troisième roman de Ian Fleming et qui sort en 55 et qui a été traduit. La façon dont traduisait les, dans, je veux dire, c'était un titre qui était vraiment dans l'esprit du temps, on va dire, par rapport au titre de Polar, hein, où on cherchait un petit peu quoi, et c'était la bonne période. Non, c'était la bonne période des romans français avec des Simonins, avec des gens comme ça, donc qui pratiquaient le langage, on va dire, très peu châtié des voyous, le verlan et même bon bah
l'apache et
oui,
tout
oui,
ça.
Oui, enfin bon, bah, le langage. Il y a même un bouquin de Simonin où vous avez le lexique à la fin, parce que sinon, si vous n'avez pas le lexique, vous comprenez pas la plupart des mots du roman. Quoi.
Grisby.
Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc Moonraker est traduit par Entourloupe dans l'Azimut. Et paradoxalement, de la part de beaucoup de gens, de l'avis de beaucoup de gens, c'est le meilleur roman de Ian Fleming. Et par contre, bon, l'adaptation a été complètement modifiée, hein, c'est-à-dire que bon, à l'époque, on parlait pas de fusées qui allaient dans l'espace, c'est clair, il n'y en est pas encore. Et donc, on a un petit peu modifié l'histoire.
C'est plus une histoire
de.
Oui, aussi.
De gangsters, enfin bref. Ensuite, les diamants sont éternels, Diamonds of Forever en 56, traduit en français Chaud les glaçons.
D'accord. Ok.
Puis, ensuite, les traductions ressemblent globalement aux traductions françaises des films. C'est-à-dire que From Russia with Love, c'est Bombay Zed Russie, Dr. No, c'est James Bond contre le Dr. No, Goldfinger. For Your Eyes Only, Bombay Zed Paris,
on n'a pas compris. Ouais.
Thunderball, c'est Opération Tonnerre, ça on le savait. The Spy Who Loved Me, Motel 007.
Il est pas mal en français.
En quelle année cette traduction?
En 66, alors que le bouquin est sorti en 62. Puis On Her Majesty's Secret Service en 63.
Je pensais à Motel California, donc c'est
peut-être possible. Ouais. Au service secret de Sa Majesté, You Only Live Twice, on ne vit que deux fois. The Man with the Golden Arm, le pistolet d'or. Et donc Octopussy and the Living Daylights, les nouvelles meilleurs vœux de la Jamaïque. Voilà, les romans de Bond. Alors, il faut signaler qu'ils sont pratiquement tous sortis à la même époque, c'est-à-dire en 64, 65, 66.
Il fallait
y aller à fond les manettes. Et ils sont tous sortis à l'époque chez la maison d'édition Plon.
D'accord.
Voilà.
Plon, hein, pas Plon.
Pas comme du plomb.
Non, Plon. Plon, pour les gens. Ils lisent un peu de livres, ils connaissent un petit peu, quoi. Alors, dans les bouquins, la première description physique de Bond est vraiment très impersonnelle. On sait rien de lui. Et à contrario, avec les descriptions qu'il peut y avoir de ses ennemis, de Blofeld, de tous les ennemis qu'il va avoir à affronter, des grands caïds du crime, qui eux sont décrits sur des pages entières au niveau de l'accoutrement des fringues, tel tailleur londonien, tel bijou, telle montre de marque. Lui, on sait très peu de choses. Il y a une description qui est très peu physique. On sait juste que au moment du premier roman, il a l'air d'avoir 35-40 ans,
il est censé être né en 1924, si je me souviens bien.
Alors justement, il y a plusieurs histoires parce que au départ, son âge, dans Casino Royale, on sait que John Bond, il achète sa première voiture, il se déplace en Bentley, une Bentley 4 litres 5 à compresseur Amherst Villiers, il l'achète en 1933. D'accord.
Ok.
Mais quand M rédige sa nécrologie pour le Times après la disparition et la mort présumée de l'agent dans On ne vit que deux fois, il indique que Bond avait 17 ans en 41. Ce qui fait que.
Voilà, il y a un problème de concordance des temps.
Il aurait acheté sa voiture à l'âge de 9 ans. on s'embarrassait pas trop de détails de toute façon.
De toute façon, avec les films et les reboots successifs, je pense que là, on n'y est plus.
Là, on est encore dans le domaine littéraire. Ouais. Pur.
Ceci dit, quand il était question de faire les premières adaptations au cinéma, Ian Fleming avait voulu David Niven pour faire le Bond. Incarné à l'écran, chose qu'il fera finalement dans le Casino Royale, la version parodique de 67.
Albert Broccoli, donc le producteur, lui, il voyait pas David Niven comme étant un bon convaincant parce que David Niven était trop guindé, trop et d'apparence physique trop fragile. Et ça, ça le gênait un petit peu parce que bon, Bond était un type qui était capable de tout faire, de sauter de 4 étages, rouler en bagnole à fond les manettes, conduire un avion, bref.
Et c'est dur les femmes.
Ça calait pas du tout quoi. Alors que bon, David Niven, c'est vrai, à cette époque-là, il incarnait l'élégance britannique, tout ce qui fait la grandeur de l'empire britannique à cette époque-là, hein,
plus flegmatique que vraiment tout à
fait,
dur, quoi.
Tout à fait. Alors après, ils ont pensé également à prendre Richard Burton, qui à l'époque est l'acteur qui marchait, l'acteur anglais, enfin britannique, mais il est pas anglais, il est britannique, qui marchait le mieux. Mais Broccoli s'est dit oui, mais attention, c'est quand même un mec qui est un petit peu ingérable, on va dire. Donc on lui a dit non. Fleming et Broccoli pensaient également à Roger Moore déjà à l'époque, mais Roger Moore à l'époque avait déjà commencé le sein et on trouvait quand même qu'il avait un air un petit peu trop juvénile pour interpréter un acteur, un agent qui allait sur sa quarantaine. Donc bah on l'a mis de côté en fait, puisque bon bah c'est lui qui a repris le rôle après Sean Connery. Et Sean Connery, eh ben on l'a pris tout simplement parce que à l'époque il avait fait quelques petits films où il avait un rôle assez intéressant et où il ressemblait un petit, c'est-à-dire il faisait un petit peu dans l'état d'esprit des gens comme acteur, il avait un petit peu la même aura qu'un certain Elvis Presley, c'est-à-dire un mec qui vient de la rue, qui ne vient pas d'une famille fortunée, qui a dû se faire tout seul, qui a dû travailler tout seul et tout. Sean Connery, quand il était jeune, il a travaillé sur les docks pour se payer des études, pour se payer à manger parce que ses parents étaient un petit peu pauvres, on va dire. Il a fait tous les métiers, 100 et 1000 métiers pour pouvoir survivre avant de pouvoir commencer à essayer un petit peu de vivre de son art, la comédie. Et on le repère parce que il a tourné 2-3 petits téléfilms, on va dire, on fait 2-3 petits films, mais qui sont à peine sortis en salle, même pas à l'étranger.
Je crois que, d'après ce que j'avais compris, c'était suite à un passage d'un téléfilm sur le réseau ITV où il jouait un boxeur qui l'avait convaincu.
Mais c'est surtout la femme du réalisateur qui l'avait convaincu.
Oui, c'est tout.
Il hésitait, il le voulait pas, je ne connerais, et finalement elle a dit, tu sais, il y a un petit quelque chose quand même, et il a été sélectionné.
Voilà. Et du fait, c'est Sean Connery.
Tu trouves qu'il est sexy?
Il l'est.
C'est le dialogue qui serait réellement passé. Hein, voilà.
Voilà donc pour le rapport. Alors James Bond est très peu décrit, donc je l'ai dit quoi par rapport aux autres. Mais par contre, on apprend beaucoup de choses. C'est-à-dire que les habitudes culinaires et les habitudes,
de boissons,
de Bond. Ok, on apprend qu'il fait pas que ça en fait. Dans les bouquins, vraiment.
Il aime la tête de veau.
Oui, mais vraiment quoi.
C'est un bon vivant.
C'est un bon vivant parce que
Et attention pour lui, la femme est utilitaire, c'est-à-dire il s'en sert bouclier, il jette. Hein.
Il va boire un bon petit étingé millésimé avec un petit peu de caviar, un petit peu de champagne rosé avec du crabe,
Et du Dom Pérignon.
Il se tape aussi de temps en temps un petit bout de saucisson de Lyon avec un petit macon, une petite saucisse de Strasbourg avec une bouteille de pisse de chat. Décrit dans le bouquin dans le roman de Fleming d'un Riquevir passable, c'est-à-dire un vin d'Alsace quoi, mais à peine buvable. Et il boit également quand il est en Allemagne et tout quoi, il mange également une double portion de hareng à la crème aux rondelles d'oignon arrosées de schnapps et de Löwenbräu à la pression.
T'as intérêt à ce que la fille en face de toi mange la même chose que toi, parce qu'avec ça t'as une haine.
En fait, c'est des roll mobs. Hein. Voilà, donc pour les habitudes culinaires. Alors, quand le premier roman est sorti, bien sûr, le roman a eu un certain succès et on a décidé de l'adapter en bande dessinée.
Oui, je vois ça. Je pensais qu'on allait y venir après, mais oui, effectivement, il y a des pages de comics en noir et blanc.
Voilà. Alors donc, au départ, Ian Fleming avait quand même un esprit pragmatique, on va dire, et puis qui pensait également à ses rentes, s'est dit OK, pas de problème et tout. En plus, le Daily Express, c'est quand même un des grands quotidiens en Angleterre, hein, avec c'est l'équivalent du Sun, du Daily Mail d'autres. C'est des trucs qui tirent après plus de 2 millions d'exemplaires. Hein, donc,
encore actuellement. Ça à l'époque, booste, hein. C'était beaucoup plus. Hein.
Et donc, eh bien, il décide de faire une bande dessinée qui va passer dans le Daily Express. Et Ian Fleming, au départ, eh bien, dit « Ok, je veux un personnage, je veux faire dessiner un personnage. » Et le personnage, en fait, ressemble à ça. Alors, vous qui écoutez à la radio, vous pouvez pas voir. Et
ils
tout,
avaient voilà. Cadré
la première Christopher mouture. Lee un peu. Hein.
Alors, ça, c'est la première mouture de Bond, telle que Ian Fleming la voit pour
son dessin. Pas très jeune,
hein,
finalement.
Alors, pas très jeune.
Très
affûté, en fait,
très anguleux.
Voilà. Et en fait, le dessinateur dit, ouais, non, mais bon, ça fait un petit peu old school, ça fait avant-guerre, ça fait personnage de la haute société, ça le fait pas du tout. Et donc, le dessinateur John McCluskey redessine le personnage à sa façon, et ça donne ça. Et là, on se
Sean Connery, là. Ouais,
là, on se dit,
d'accord.
Ah oui,
on est un peu plus vieux quand même.
On est en 1953, là, 54, hein. Donc, Sean Connery n'existe même pas encore, hein.
Oui, mais il y a une ressemblance quand même, hein.
Il y a une ressemblance. Et il y a également, je pensais plus, aux grands acteurs américains, un John Wayne, Clark Gable, des mecs, Gary Cooper. Enfin, c'est plus cet esprit-là, quoi, en fait, avec la petite bouclette comme ça, en plus, quoi, ça le fait vraiment bien. Et donc, sont sortis,
Superman aussi.
La bande dessinée, les bandes dessinées donc tirées des romans quoi. Et là, vous avez une pleine page donc du Docteur No. Hein. Bon, alors ça reste très classique. Hein. Il y a pas de problème.
Oui, mais
hein, pour l'époque.
Le traitement est intéressant parce que je ne sais plus. Je crois que c'est au début de Goldfinger où James Bond arrive dans le bureau de M et en fait son cerveau a été lavé et M doit sa survie parce que Bond allait le tuer en fait à la chute d'une protection et tout, donc le traitement de Bond est beaucoup plus tangent par rapport à ce que ce sera au cinéma. D'ailleurs, je crois que ça y est même pas dans les bouquins, mais je n'en suis pas sûr.
Non mais bon, c'est pas important quoi. Voilà donc pour
non mais ça a été traduit en français. Ça a été traduit en français hein, les BD. Il y a une dizaine d'années.
Voilà, l'avant Bond au cinéma en fait, surtout sous la plume de Ian Fleming.
Pour clôturer sur Ian Fleming, il est prévu finalement de lui faire un biopic. De manière assez récente, donc ce serait pour la tournée à la fin de l'année 2012 ou début 2013. Et il se dirait que ce serait un certain DiCaprio qui pourrait camper Ian Fleming.
Sous la direction de peut-être Scorsese, c'est pas. Ah non, il faudrait un réalisateur britannique pourtant, par contre.
Affaire à suivre.
Enfin, on parlera un peu de tout. Moi, je vous propose de faire une anatomie d'un film.
On va peut-être faire une coupure musicale, non?
Il est 25, on va pas avoir le temps de tout caser si on met une seule musique. Mais non, c'est pas possible, c'est mission impossible.
Bon.
Désolé, j'ai essayé de la caser celle-là. Donc je sais pas ce que vous voulez. Ah bah tiens. Hop.
Excusez-le.
Je vais mettre Jaltaline, Suitcase Man, c'est extrait de l'album Terminal. Juste parce que voilà, l'ambiance est
rien à voir,
super.
Quoi.
Bah si. Trop cool. Bah non. Qu'est-ce que tu vas croire?
red space, in the dark red space, a suitcase man. And in the shadow of the shaking, and in the shadow of the shaking leaves, a suitcase woman. Theft of the eyes, a theft of the breath, the photographer, and his back so faces, and his rock and roll shook, and his rock and roll shook, and his back so faces, he stole it all. Of stolen eyes, loot of souls with rolling eyes, in windy faces, he stole it all, he stole.
Suitcase Man sur Radio FMR dans le Super Weekend. Et j'aimerais parler des différents Bonds, bien évidemment, qui ont été incarnés à l'écran. Et en fait, il y a une théorie qui est intéressante, comme quoi, en fait, Bond ne serait qu'un pseudo qui se refile, justement à cause des fameuses incohérences sur son âge réel, sur le fait que ben il est incarné par plusieurs acteurs et que en fait ben donc c'est juste le nom James Bond est filé en même temps que le matricule 007. C'est une théorie sur laquelle plusieurs réalisateurs adhèrent et qu'évidemment la production ne veut pas entendre.
Ce serait la plus logique.
Ce serait la plus logique. En fait, effectivement, elle marcherait très bien, on va dire. Alors, parmi les Bonds, donc tout à l'heure on a parlé de David Niven, sachant que donc il y a eu un premier Casino Royale en 56-57, je crois, c'était un téléfilm par CBS, et que il s'appelait pas
en 54.
En 54, il s'appelait pas James Bond, mais il s'appelait Jimmy Bond, puisqu'il était censé être agent américain. Alors CBS a toujours dit non, on n'a aucune image ni quoi que ce soit. Eon Production a toujours dit il y a aucune image qui existe de ce James Bond. Et comme par hasard dans le documentaire qui était passé sur France 4, on en a vu des images. Donc franchement de ce côté-là, bon, on a compris, il y a eu du nettoyage. Alors bien évidemment, il y a le Bond fondateur à l'écran, il y a Sean Connery qui, à mon sens, c'est l'armoire à glace, stylé, macho, adepte des coups durs. Il est impressionnant par sa carrure et en même temps.
Mais toujours classe.
Il est toujours classe. Il a été l'un des rares à avoir porté le chapeau.
C'est vrai.
Parce que dans le bar Elgon, on le voit avec le chapeau.
Tout à fait.
C'est l'une des rares fois. C'est l'une des rares fois où on le voit.
Quand il joue au golf aussi, il y a un moment avec
Goldfinger.
Bah Goldfinger.
Avec Goldfinger.
C'est vrai que Daniel Craig avec un chapeau, je demande à voir quand même.
Je pense que c'est l'époque aussi qui voulait que ça passait bien d'avoir un chapeau. Il y a pas de. Mais il était en tout cas, quelle que soit sa tenue, il était d'une classe vraiment.
Mais il était très
velu aussi, il était.
Ouais. Très macho, oui, c'est bien. quand il drague, épilé, ouais, quand une fille tombe en pamoison devant lui, il est voilà comme ça. Il a même pas besoin de faire un seul geste.
Ah non.
Libre à nos auditeurs d'interpréter l'onomatopée qu'il a poussé. Hein. Voilà.
Exactement. Sachant que donc Sean Connery a commencé à se brouiller avec la production pour les histoires de cachet à partir de On ne vit que deux fois. Donc il y a eu une parenthèse avec un autre acteur. On l'a rappelé en catastrophe pour Les Diamants sont éternels parce qu'il y avait un autre Bond qui était prévu, qui était L'homme au pistolet d'or et qui a été retardé pour des raisons politiques en fait au Cambodge à ce moment-là. Et qu'il était tellement fâché avec la production que quand il était question de faire un remake On ne vit que deux fois, et ben il a fait le James Bond concurrent qui était Jamais plus jamais en 83, qui était dont le nom Jamais plus jamais ça venait d'une blague que lui-même il avait dit. Est-ce que vous tournerez dans un James Bond? Jamais. Et sa femme lui a dit. Plus jamais, parce qu'il venait de signer pour un autre Bond, pour Les Diamants sont éternels en 71. Donc voilà, assez amusant.
Compliqué.
Il y a George Lazenby qui a tourné dans un unique Bond, qui était au service secret de Sa Majesté en 69, qui est considéré dans son interprétation comme le plus proche du roman originel. Mais là, surtout, il avait cette chemise bouffante, tu vois, à flonflon. On est en 68, hein, quand même. Donc, enfin, le film est sorti en 69. Et en fait, il n'était pas acteur. Mais il a juste acheté un costume que Sean Connery ne voulait pas. Il s'est pointé avec le costume. Il est allé voir directement Albert Broccoli. Il a dit, pareil que vous cherchez le Bond. Vous le cherchiez. Sous-entendu, c'est moi. Et les producteurs ont dit, rendez-vous demain à tel truc, sur le lieu de tournage, etc. Et un réalisateur qui... Là, il arrive, il est un peu penaud. Il a dit, en fait, je ne suis pas du tout acteur. Un réalisateur lui a dit, tu as réussi à convaincre les pires requins. Comment tu peux dire que tu n'es pas acteur? Seulement, il se trouve que on est quand même dans le Swinging London, on est en 68, donc c'est le grand moment, je vais dire. Mais surtout, il a comme un producteur, enfin comme agent, il s'est mis copain-copain avec un certain Ronan O'Reilly, qui est le fondateur de Radio Caroline, une des radios pirates de l'époque. Et à l'époque, voilà, c'est un des personnages importants et qui tient un peu son rôle de mentor et qui lui dit « Non mais de toute façon... on ira vers une détente. James Bond, il est fini. » Et c'est pour ça qu'il a dit... c'est pour ça qu'il a laissé bouler le personnage. En plus, il buvait comme un trou. Et il a dit lui-même pourquoi il voulait prendre ce rôle. Son truc, c'était baiser les nanas. Ah ben... Il le dit dans le documentaire qu'il se faisait une moyenne de 4 nanas par jour.
Donc ça va, il était...
Donc il était...
Le ratio était bon.
Ingérable sur le plateau et tout ça, puisqu'il était bourré et tout. Et donc qu'est-ce qui s'est passé au final? Surtout que bon, au service secret de Sa Majesté, il se retrouve dans un harem. Hein. Ni plus ni moins.
Ni plus ni moins.
Ni plus ni moins. Bref, ce qui fait qu'on l'a plus jamais entendu parler, juste il a tourné dans Les Emmanuels dans les années 90. À mon avis, il avait un âge qui fait qu'il était déjà parti, qu'il ne pouvait plus déjà tenir les rôles d'étalon, si je puis dire. Ensuite, donc, 71, Sean Connery revient. Après, Sean Connery, bon, la production savait que c'était fini, etc. Il cherche quelqu'un. Il se trouve que soirée de casino et tout ça, Roger Moore, qui connaît le producteur, dit « Oh, moi, en ce moment, je suis dispo et je suis complètement rincé par les jeux d'argent et tout ça. Je suis pas cher. » C'est ce qu'il dit, hein, d'ailleurs, dans son autobiographie.
C'est
ce qu'il dit sur le plateau. En ce moment, je suis pas cher. Hein, j'ai quelques dettes à éponger. Et c'est comme ça que Roger Moore s'est retrouvé dans le rôle de James Bond, celui qui a tenu le plus de films, la franchise, hein, de 73 à 85. Il sortait du sein, il avait déjà tourné, si je me trompe,
Amicalement Votre.
Et je vais dire, c'est le playboy, c'est le noble, il est un peu flambeur. On le voit pas trop dans les rôles physiques, d'ailleurs, si je me souviens bien.
On le voit pas souvent fighter.
Dans L'homme au pistolet d'or, qui est le premier dans lequel il est le plus jeune, il laisse les filles aller à l'attaque. Il fait rien, quoi, point de vue combat.
c'est ou à la limite il fait le petit coup de pute, tu vois, un geste pas très sportif et hop, j'esquive quoi.
Et c'est lui aussi qu'on a vu dans des déguisements assez improbables, genre en émir arabe, enfin des trucs pas possibles quoi.
À fond. Et pire que tout, il va se montrer très décalé dans Moonraker. Franchement, c'est peut-être le rôle où lui-même il fait un peu paumé. Et pire que tout, il est carrément mais hyper vieux à l'écran dans Dangereusement Votre. Et gros plans, théoriquement, étaient censés être évités, mais malgré tout, il devait en faire quelques-uns, et tu le vois, mais voilà quoi, pas très crédible.
Ouais, c'était une époque où les acteurs et les scénaristes et les réalisateurs n'assumaient pas ce côté vieux, alors qu'aujourd'hui, Daniel Craig, il a des poils blancs à la barbe, il est fait mention au fait qu'il soit un peu usé. À cette époque-là, ils n'avaient pas ce recul-là sur le personnage. Ils ne pouvaient pas se permettre de faire ça.
En tout cas, c'est l'acteur qui a le plus porté Bond. C'est lui qui a écrit Bond on Bond, ou en fait qui est le livre de référence à ce qui paraît sur la saga, sur l'histoire, sur le personnage et tout ça. C'est-à-dire, il a fait une étude complète sur le personnage, non seulement de sa propre interprétation, non seulement les autres, mais aussi justement tout l'impact sur la culture populaire.
Qui l'aurait cru Qui l'aurait cru Quelqu'un qui a tourné ensuite dans le grand tournoi de Van Damme, quand même.
S'il y avait que ça.
Non, parce que j'ai réussi à placer du Van Damme dans une spéciale James Bond, je suis très content de moi.
Tu sors.
C'était le seul. C'était la seule allusion qu'on aura à Van Damme tout à l'heure.
Oh là là.
Oh attends.
Ouf. Ouh là là.
Après Roger Moore, Timothy Dalton qui arrive en 87. Il faut savoir qu'à l'époque, Pierce Brosnan a déjà été casté. Pierce Brosnan est en plein dans le succès de Remington Steele, mais normalement pour 2 saisons. Mais au bout de la 2e saison, il n'est pas sûr que la chaîne le reprenne. Il a un hiatus de 1 mois. Et il appelle les producteurs et dit « Écoutez, moi je suis libre pour faire Bond. Ok, il n'y a pas de problème. 1 mois, 30 jours par contrat. Il est dans l'hôtel de Los Angeles. Il va voir Albert Broccoli, le téléphone sonne. Qu'est-ce qui se passe ? Il décroche et c'est à 30 minutes près qu'il a appris que tout simplement Remington Steele était re-signé. Donc pour lui c'était foutu. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il a fait vraiment la série à contre-cœur. Ça sent dans la 3e saison. Il est assez pète sec. Il y a une ambiance vraiment de merde à ce qui paraît sur le tournage. Alors que pendant ce temps-là, c'est Timothy Dalton qui est un acteur shakespearien qui va le tenir pour 2 rôles. Il le fait sans humour. Castagneur.
Donc les deux Hollywood Night hein, de la série.
Ouais, mais c'est là où le rôle shakespearien, c'est vrai qu'il le fait un petit peu, mais je pense qu'il le joue mieux quand il fait un méchant très crédible.
Ouais, c'est vrai que j'oubliais que toi t'étais fan de Timothy Dalton, toi.
Je le trouve pas trop mal. J'ai pas trop mal. Je veux dire, c'est pas encore la catastrophe. Parce que Pierce Brosnan, il revient en 95, il le joue dans
GoldenEye.
Mais dans le documentaire qui a été produit par Eon Productions, il le dit lui-même, c'est de la grosse tartufferie après, avec le point de non-retour, le jump on the shark avec la voiture invisible, le laser orbital, le méchant,
ça,
la gueule.
Ça, c'est meurt un autre jour avec Halle Berry.
Ou quand même, il fait lui-même un rôle où il est, je veux dire, il prend le personnage, il le massacre complètement. Hein. Et avec la complicité des scénaristes.
Le film avait été bien reçu à l'époque puisque c'était un film qui revenait sur les origines de la saga avec plein de références dans le film, ouais. Avec Halle Berry qui sortait de l'eau comme Ursula Andress. En fait, le film est brillé par ses références, mais c'était une époque où, à partir d'un film où du moment où un film affichait ses références, c'était un bon film parce que ça montrait que les réalisateurs et les scénaristes étaient intelligents. C'était une époque où, souvenez-vous, il y avait beaucoup de films qui faisaient ça, les scrims, les trucs comme ça, des clins d'œil.
Ah, mais si tu fais que des clins d'œil pendant tout le film, au bout d'un moment, où est le film?
Et oui, après, tu vois plus rien si tu fais que des clins d'œil après.
C'est ça.
Bref, Pierce Brosnan 2004, du moins pour
après
le dernier.
4 bandes quand même.
Voilà. Que lui-même dans Aeon, il dit les autres, je les ai complètement oubliés.
Il y a un auquel il croyait et 3 autres qu'il a balancés.
Voilà, exactement. Alors que quand même, je trouve que le personnage le fait bien, c'est-à-dire il a le bon compromis entre bagarreur et séducteur.
Oui,
c'est vrai que sur le thème du flegme, quand il est en train de rouler en tank dans Saint-Pétersbourg quand il essaie de séduire une femme, je trouve que les deux passent très bien.
Ouais. Oui, il est très bien, oui. Il a une bonne présence, plus que Roger Moore.
Il a juste pas été servi par l'époque, je dirais.
Ça veut dire quoi ? Ça, par rapport au scénario ?
Par rapport au scénar.
par rapport à ce que ça devenait.
Oh, il y a des trucs à sauver,
il y a les choses un peu pauvres et un petit peu
le monde ne suffit pas, c'est avec Jonathan Pryce, je crois. Il y a bonne séquence avec Michelle Yeoh quand même en James Bond Girl. GoldenEye c'est une réussite. Le 3 avec Sophie Marceau était raté, mais le 4 bon, on a parlé avec Halle Berry, là c'est une période correcte, il y a eu pire, il y a eu mieux, franchement non. Brosnan à l'époque, moi j'aimais pas trop, mais avec le recul finalement un petit GoldenEye qui repasserait à la télé, je serais pas contre là.
Et après donc l'actuel Daniel Craig, brut, sans humour.
Ah oui, alors lui
Armoire
c'est le
pas
c'est
un
le
jeu de mots.
Défenseur en série.
Pas un jeu de mots.
Je parle pas des nanas, je parle des murs.
Pas un jeu de mots, il y a quand même quelques petits jeux de mots dans le dernier quoi.
Il y a quand même quelques-uns, mais je veux dire
à caractère sexuel, on va dire.
On est loin de Roger Moore quoi, alors que Roger Moore justement
mais sexuel, je pense que ça le crédibilise dans son rôle. De toute façon, il a une tête de dur, de dur à cuire, donc il si se
Moi j'ai écrit c'est un fauve, un caterpillar dans un tuxedo.
Moi je pense que si on devait faire des duels à main nue entre tous les Bonds, je pense que Daniel Craig les alignerait facilement, je pense.
Ouais, mais enfin, il y a un tout petit défaut, il y a un tout petit bémol, c'est le fait que...
Sean Connery de l'époque.
Ouais. Bon, la finale sera entre Sean Connery et Daniel Craig, quand même.
Ouais, mais enfin bon, je trouve que dans les derniers, justement, dans les Daniel Craig, en particulier dans Skyfall, on le voit un peu trop souvent... torse-poil, c'est-à-dire bon, on voit bien quelle est sa musculature, on voit bien que le mec il s'est entraîné, qu'il est en pleine forme.
Mais aussi c'est pour qu'on voit ses faiblesses puisqu'il a reçu.
Oui, c'est également pour qu'on voit ses
blessures.
Ses blessures.
Sans trop dévoiler.
Ses cicatrices. Ses cicatrices.
Oui, la cicatrice c'est assez important dans le film. Mais alors, j'ai un retour de la partie féminine de chez moi qui me dit on voit que Daniel Craig a un corps qui est totalement qui est pas naturel puisque on voit qu'il a une toute petite tête par rapport à son corps, et donc la proportion, on voyait que Brosnan c'était son corps alors que Daniel Craig a artificiellement fait de la gonflette. Donc là c'est quand même un point négatif pour Daniel Craig.
Bon, c'est pas... il y a une scène où j'ai trouvé ça vraiment vraiment très flagrant, mais après ça m'a
c'est
pas...
C'est quand il est en serviette?
Non, c'est à un moment, il y a un plan de profil où on voit vraiment qu'il a des trapèzes énormes. Et là ça m'a un peu choqué. Mais sinon, après, sur le reste, où il est torse nu face au public, je vais pas...
Et en plus, il est blond, donc on n'a pas le torse velu de Brosnan ou de Sean Connery,
bon,
ça ferait encore plus bestial. Hein.
On s'en passera, franchement.
Alors, évidemment, sur Twitter, j'en prends plein la gueule, il y a un classement de Bond que l'on nous a envoyé. Premier, Sean Connery. Deuxième, La Moule. Troisième, Brosman. Quatrième, Joe Averell. Et cinq, La Zambie.
La Zambie comme le pays.
Alors, il a oublié la Craigslist entre la brosse et des condamnés à 4000 ans de travaux forcés, donc il y a des jeux de mots.
Ah, Joe Averell, je viens de comprendre pour Dalton, d'accord.
Oh,
et voilà.
C'est un atome, vraiment. Voilà. T'es pas très en forme aujourd'hui. Hein,
aujourd'hui, c'est pas à fond. Et on me signale aussi que c'est Duncan Jones qui est le fils de Bowie, réalisateur de Moon, qui est
présenté comme
réalisateur.
On l'a dit en antenne, ouais.
Voilà. Tout ça pour dire, qu'on va peut-être faire l'anatomie d'un film.
Allez.
Comment marche un Bond en SWAT? Bon, il y a la séquence pré-générique.
On coupe un peu là.
Ah, mais justement.
Ah bon, pardon.
Oui, il y a un générique en plein dans le film.
D'accord.
Bah oui, tu as oublié.
Oui.
D'abord, tu as la scène d'intro qui est hyper efficace en général. Hein, c'est le pack shoot, c'est là où on met. Voilà, t'es scotché, t'es vissé, le spectateur.
La
il
scène
est
d'intro
calmé,
qui
t'empêche de
qui
sortir
pose l'intrigue.
On va dire ou des fois, la scène d'intro n'a rien à voir avec le reste, mais c'est surtout d'afficher clairement la couleur avec souvent. La meilleure scène d'action du film, mais débarrassée de toute contrainte scénaristique. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a le Bond qui course ce qu'on devine un méchant, et puis on se fout du reste.
Oui, c'est à peu près ça.
Voilà, voilà, le méchant est vaguement balafré, il a quelque chose avec lui, mais voilà, c'est on lâche les chiens, on galope, etc. Point barre. Il y a la scène du barrel gun.
Qui, exceptionnellement, en Skyfall, est située... À la fin,
voilà. Sachant que à chaque fois, bien évidemment, c'est l'acteur qui le joue. Et dans quel film il n'est pas présent?
Je dirais dans Meurt un autre jour.
Dans Docteur No.
Dans Docteur No, parce qu'il n'y avait pas encore la signature.
Ouais. Par contre, il y a les cercles, etc. Et c'est ça, ce qui paraît, qui a inspiré l'idée du barrel gun.
Même rappeler aux gens qui savent pas ce que c'est un barrel gun, c'est la fameuse scène où on voit à travers le trou de la future balle dans le cadavre le Bond qui tire et puis qui a la coulure de sang rouge stylisé qui se déverse par-dessus.
qui est vraiment de ce côté-là, je veux dire, la signature absolue de la série. Difficile, hein, je veux dire, de s'en passer de ce côté-là. Après, il y a bien évidemment le générique avec sa chanson. Alors, comment on fait un générique de Bond?
Ça, c'est la grande question.
Tu te mets derrière le paravent avec les spots de lumière et tu agites les voiles, s'il te plaît. Alors, c'est très simple.
Tu te mets en robe de soirée.
Voilà, des flingues, des filles, des éclairages de couleurs et une chanteuse à voix ou un groupe de pop la mode.
Alors là, vous avez pas le visuel, mais Sushi nous fait une imitation des chanteuses et des silhouettes des génériques, là.
Voilà, c'est très langoureux en général avec.
Attends, je sors l'iPhone, attends.
L'explosion derrière. C'est toujours une chanteuse à voix ou. Alors, un groupe de pop à la mode. Si c'est un groupe de pop à la mode, on va rappeler on va souligner les refrains par un orchestre de cuivres et de cordes de John Barry.
Quoi qu'il arrive, ils sont toujours présents, les cuivres. En général, ça pète.
Mais oui, c'est la signature de John Barry. Est-ce que vous savez combien il a été payé pour le thème?
Oh, j'imagine que c'est pas beaucoup si tu poses la question.
$150, un truc qui était ridicule, mais après, voilà, comme il a fait toutes les séries, il a été bien payé, sachant qu'au départ, c'était pour un vaudeville.
Sachant qu'on parle de John Barry, on voit la maison de M dans Skyfall, et c'est la maison qui avait été occupée par John Barry, en vrai.
D'accord. Ok.
C'est renseigné, vraiment, là.
Elle me cherche depuis tout à l'heure, j'ai l'impression.
À fond. Et bien évidemment, la musique, et pour le coup. Sushi, qu'est-ce que tu nous as choisi parmi les génériques?
Celui de Goldfinger.
Par Shirley, c'est.
A cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold.
Et là, on fait le fondu, puisque Bond va se retrouver dans le bureau du patron pour son débrief, sa mission en cours, où c'est qu'il va être envoyé, quel est l'ennemi, où va commencer en fait sa traque. Alors, en général, le bureau de M est cossu, etc., jusqu'à l'arrivée donc de la M actuelle, où là on a des bureaux modernes.
Et un chien. Et un chien.
Oui, aussi.
Un porcelaine.
Aussi. Après, il y a la scène d'équipement en général chez Q, quoique c'est une partie qui a été, qui a commencé à disparaître avec Daniel Craig, et qui est complètement disparue. Il y a bien évidemment.
Avec les blagues de Q.
Oui.
en général, et merci de me le ramener en une fois. Bon, ok, il y a le terrain avec la visite de lieu typique. Bon, en général, c'est au pas de charge, hein. C'est pire que quand on fait la visite d'un lieu connu dans un autobus. Là, ça y va à fond. Et d'ailleurs, on fait pas gaffe. En général, on casse des véhicules.
Ah non, je croyais que tu faisais dans l'ordre en fait, parce que là c'est pas.
C'est à peu près dans l'ordre. Hein,
là c'est pas dans l'ordre parce que normalement il y a la découverte de la destination touristique paradisiaque pour montrer que ça a été sponsorisé par le le truc de tourisme local, Istanbul, les palmiers, les Bahamas, voilà, le Bond arrive, j'expose ma virilité à la gente féminine qui est là dès l'aéroport et voilà, soit il se fait courser par des méchants ou.
Donc voilà, il y a bien évidemment les autres agents de terrain. Alors des fois il va tomber sur Félix, d'autres fois il va tomber sur d'autres agents de terrain.
Des agents doubles.
Ou des agents comme Tigre, qui sont carrément les homologues de M, mais qui n'hésitent pas à se plonger sur le terrain. Et tout ça.
Ah, Félix c'était le maniéré là.
Félix c'est celui de la CIA.
Ah non, c'est pas, je confonds alors.
Et on a eu plusieurs Félix, dont la dernière incarnation où il est noir. Hein,
oui, oui, c'était. Même. Il s'appelle White d'ailleurs, l'acteur, je crois.
Oh la blague. Bien évidemment au moins une Bond girl. En général, c'est soit la demoiselle en détresse, soit c'est quelqu'un qui est assez forte en poigne. Ça peut changer.
Il peut y en avoir plusieurs dans le film.
Oui, voire deux à trois même. Donc évidemment, plus t'en as, plus il y en a qui sont susceptibles d'y passer aussi.
Bah, c'est vrai que dans il y a certains films où par contre c'est James Bond girl qu'on cite mais on fait une apparition que très
épisodique
quoi, c'est-à-dire que la scène dure 5 minutes et puis après bon bah elle est déjà morte quoi.
Il y a les cascades, on a dit tout à l'heure que Rémy Julien écrivait carrément les scénarios des Bond avant qu'ils soient tournés, c'est-à-dire que non, il disait ça, je veux tourner comme ça, etc.
Ça c'est vrai dans la période creuse des James Bond,
ceux des années 70, voilà. 80, mais en général c'est des cascades spectaculaire, quoique depuis l'arrivée de Daniel Craig, en même temps, ils sont revenus à des cascades beaucoup plus sèches, tournées d'une manière beaucoup plus brute. C'est-à-dire les voitures n'explosent plus systématiquement. Des fois, elles se retrouvent.
On en reparlera tout à l'heure, mais je pense que c'est le petit cousin Bourne qui est passé par là, de toute façon. Hein.
Ah ouais. Exactement. Il y a la trahison, voire le meurtre d'une des bandes.
Voire les deux, de toute façon.
Voilà. Il y a l'infiltration en guise de représailles du domaine du méchant. En général, Bond se fait capturer.
Non, mais l'infiltration, c'est comme si tu mettais, tu le badigeonnais de peinture floue en disant, je suis bon, je suis un espion, j'arrive, les pieds palmés, pour bien qu'on sache que je suis là, hein.
Bon, allez, on le capture. Quoique, ça permet d'avoir droit à une visite du méchant qui en profite pour exploser tous ses plans et dire qu'il va.
Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, je vais faire ça.
Mais avant, je vais vous tuer comme ça, mais je vais prendre beaucoup de temps.
Regardez, ce bouton est très important. C'est ce bouton qui va décider.
Évidemment, le temps du monologue, Bond décroche un petit coup de poing et vas-y que j'en profite pour faire la grosse destruction des lieux très aussi et arty, décorés avec goût quand même. Hein,
les méchants, quand même, tu remarqueras que la manière de désamorcer leur plan machiavélique correspond toujours avec le super gadget qu'a eu James Bond au début de l'aventure. Hein.
Ah, oui,
comme par hasard.
C'est
mais
toujours le même.
C'est toujours étudié exactement pour ce moment-là.
Q, ils sont très forts. Hein.
Ouais.
Les services d'équipement. Et après, il y a la scène sur un soleil couchant pendant que London Calling en disant mais où est Bond?
Je crois que Sushi a.
Vas-y.
Non, mais parce que tu parlais de monologue et qu'il faisait un coup de poing aussi, mais des fois, James Bond, il est en mauvaise posture et là, il tente des choses pour s'en sortir. Tu vois, il essaie de dialoguer, de négocier. Il y en a eu quelques-uns aussi comme ça.
Tu as oublié.
Face aux méchants,
C'était assez. Mais c'est vraiment les points. On a beau aimer James Bond, on se rend compte que c'est toujours le même rail.
Oui, après.
À peu près.
Après, t'as oublié la réplique Bond James Bond, le Martini. Il y a le duel à main nue qui se finit par un boutonnage de costume, un Bond sur trois, il y a une descente à ski, il y a, bon voilà, c'est,
il y a des, des trains, des avions, des voitures. Attention, il y a des stats. Et Thomas, justement, a espionné à la loupe, a fait une observation, si je puis dire, du dernier Bond. Tu voulais faire la chronique.
Ah, direct, d'accord.
Allons-y.
Ok.
Ou alors, je peux faire un quiz.
Oui,
vas-y, on est prêt pour les quiz.
On va faire un quiz. Alors, attention, c'est un quiz James Bond. Ce sont des noms de films de la franchise. Mais ça peut être le nom VO ou VF.
Oula.
Mais attention, la réponse n'est jamais Skyfall.
D'accord. Je vais perdre.
Alors attention, ça va être assez chaud. C'est un reboot.
Casino Royale.
Ok, Thomas 1. C'est la devise des Bond.
Jamais. Règle pour vos yeux.
Non.
Jamais plus jamais.
Non.
Devise des Bond. Vivre et laisser mourir.
Non.
Shaken, not stirred.
Non.
Quoi? Ah, mais c'est pas un titre de film, si.
Si, c'est un
Demain
titre
ne
de
meurt
film.
Jamais.
Non.
Vivre des. Permis de tuer.
Elle est citée en latin dans.
Quand tout le monde se lève.
Non. Elle est citée en.
Je sais pas.
Elle est citée en latin dans le service secret de Sa Majesté.
Oh là là. Service secret de Sa Majesté en latin. Mais donc c'est un. Ah oui, d'accord. Donc la traduction est un titre.
Orbis non sufficit. Le monde ne suffit pas.
D'accord, je l'aurais pas trouvé.
Ah ouais. C'est une île achetée par Ian Fleming où il écrivit ses romans. Île qui fut revendue à. Ça, c'est pas un nom de James Bond.
Je sais pas.
À Bob Marley.
Ah oui.
Après, pour la liquidation, 10 ans après, ils l'ont revendu. Il se trouve que c'était Bob Marley qui avait acheté l'île. C'est un Bond braqué et remaké par un réalisateur.
Jamais plus jamais.
Oui. Et le Bond.
Opération original... Tonnerre.
Oui, pas mal. Dedans, le siège du MI6 se fait exploser.
Goldfinger.
Il y en a un autre film où il se fait.
Oh, ta gueule là.
Ouais, c'est bon, ça se passe au début. Ouais. C'est avec quel acteur de Bond?
Pierce Brosnan.
Pierce Brosnan, où le MI6 se fait exploser.
Et d'ailleurs, le même bâtiment, hein, puisque c'est le bâtiment actuel.
C'est dans. Dans un autre jour.
Le monde ne suffit pas.
D'accord.
M meurt, donc on ne le voit jamais dans le film, alors qu'il a tourné une bonne partie des scènes.
M meurt.
Bah ça, c'était quand c'était encore un homme.
C'est Bernard Lee, c'est Bernard l'acteur Lee, ouais. qui jouait James Bond, qui jouait M dans les James Bond, et qui est décédé pendant le tournage. Et donc du coup, c'est Q qui endosse son rôle. Voilà, et alors, c'est en 81.
Et c'est Bernard Lee d'ailleurs qui est l'acteur qui a interprété un rôle dans les Bond le plus fréquemment, le plus longtemps. Hein, c'est-à-dire que c'est lui l'acteur qui est dans le plus de Bond.
Je sais pas, Moonraker, ça doit être un Roger Moore, je pense. Vivre et laisser mourir.
Non.
Rien que pour vos yeux.
Rien que pour vos yeux.
Gagné, sushi.
Au pif, hein.
Et alors, attention, dernière question. C'est l'unique fois qu'une voiture fait un 360 degrés qu'on appelle aussi un salto costal.
Oh, bah ça, c'est Casino Royale.
Non.
Quand tout le monde au soleil.
Dans
les derniers, là, non?
Non.
Un 360 degrés.
Ouais, tu la vois, la voiture, elle saute et puis il fait.
C'est Roger Moore, ça, c'est n'importe quoi.
Exactement, oui.
Bah, c'est le truc avec le l'espèce de shérif complètement con, là.
Ouais.
Oh putain, comment ça s'appelle? C'est avec les. Ah merde. J'explose le quota de gros mots là, attends.
Je crois que madame écoute.
Ah, c'est l'espion qui m'aimait?
Non. C'est l'homme au pistolet d'or.
Oh, et zut.
Et c'est la seule fois où cette cascade a été tentée, sachant que pour les 45 pour le reboot avec Daniel Craig, il y a une émission assez connue qui s'appelle Top Gear qui a tenté de refaire la cascade. Ils sont juste explosés la gueule.
D'accord.
Comme quoi ça n'est pas possible.
Ça n'a été tenté qu'une seule fois et ça n'a été fait qu'une seule fois en fait.
D'accord.
Donc voilà, donc ça fait ça fait Thomas qui mène 3-2 face à Sushi. Donc
mais
Thomas,
sport, allez, on se réveille. Là.
Thomas, que peux-tu nous dire donc sur le film actuel?
Alors j'ai pas noté les castings, mais bon voilà, c'est avec Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Albert Finney,
Bérénice
Marlowe et donc Naomi Harris, réalisé par un réalisateur
ainsi que Olaf Rapace, hein, qu'il faut pas l'oublier, Patrice, le premier méchant quoi, le mec qui poursuit quoi,
oui.
Et
ah,
qui
oui.
va dégommer, enfin
d'accord.
Bon, bref, Olaf Rapace qui est l'ex-mari de Noomi Rapace.
D'accord.
Noomi Rapace qui jouait dans L'homme qui n'aimait pas la femme.
Ah ouais, tu crois qu'il va arriver à la placer sa chronique si tu.
Non, et donc c'est deux films, un film réalisé par Sam Mendes, donc réalisateur plutôt de films d'auteur et qui avait fait American Beauty,
ah ouais.
Voilà. Oui, bah, c'est
qui,
pas...
vient du théâtre hein, d'ailleurs. Hein.
Oui, et qui avait déjà dirigé Judi Dench au théâtre justement. Mmh. Alors dans ce nouveau film, les rapports entre M. Figure maternelle, puisqu'avant c'était la figure paternelle, enfin c'est plutôt le chef commanditaire, mais les relations n'étaient pas trop développées. Donc ici les relations entre Bond et M sont extrêmement développées puisque c'est le cœur du film, accentué par le fait que le méchant cette fois-ci est le némésis de Bond, puisque un ancien de la maison, incarné donc par Javier Bardem.
Étonnant d'ailleurs, en blond. Okay.
Oui, oui, étonnant. Moi, ça m'a fait bizarre. Je m'en suis toujours pas remis d'ailleurs. le méchant incarné par Bardem s'attaque directement au MI6.
Même plus que ça. Il s'attaque à M, vraiment.
Voilà, oui. Donc, c'est un règlement de compte entre les deux agents, dont un ancien agent et M. On est plongé directement dans un climat de tension et de chaos total. La légitimité de Bond sur le terrain est questionnée puisque c'est un agent qui est passé pour mort au début du film, puis il se fait shooter dans la tête. Pour reprendre du service, il doit repasser des tests.
Qui échoue.
Ah, il réussit tant bien que mal, on va dire, entre guillemets, voilà. Quelqu'un dont la légitimité sur le terrain est mise en cause. On le voit hésiter avant de tirer, il a la main qui tremble. Est-ce que c'est toujours le bond d'avant, toujours aussi efficace? Peut-être pas. Et donc, on insiste sur la fragilité, puisqu'on avait une fragilité de Daniel Craig dans Casino Royale, mais c'était surtout son manque d'expérience, puisqu'il venait de commettre son double meurtre, donc il lui autorisait à être le double zéro du MI6. Cette fois-ci, c'est plutôt un ancien combattant, un gars qui a roulé sa bosse pas mal.
C'est un petit peu la même chose que dans Jamais plus jamais.
Oui, voilà. Hein. Et d'ailleurs, dans Jamais plus jamais, le retour de Connery, Q qui lui dit: j'espère qu'avec votre retour, nous allons à nouveau sombrer dans le sexe et la violence. Voilà. D'ailleurs, il passe des tests aussi, duels à main nue. Alors, vous êtes toujours la forme ou pas? Ah, c'est un petit dur, hein. Voilà. Donc là, on voit Daniel Craig plutôt mal rasé pendant beaucoup de séquences. On voit qu'il a des poils blancs, fragilisé. C'est pas si courant qu'un Bond est blessé par balle dans un film, hein, puisque là l'accent est mis là-dessus. On voit qu'il a des cicatrices intérieures et extérieures, donc voilà, on voit une fragilité de Bond. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un film aussi qui échappe un petit peu à la schématisation traditionnelle des autres Bond, donc c'est pour ça qu'on va tenter aujourd'hui de ne pas trop spoiler le film, puisqu'il y a pas mal de remises en question des personnages, de la narration typique bondienne et tout, qui n'obéissent pas au schéma habituel.
Même s'il y a quelques clins d'œil aux franchises précédentes.
Voilà, alors c'est là que la confusion parfois est totale, c'est que on dit que Bond c'est quelqu'un qui, dans il y a deux films à peine, c'était quelqu'un qui c'est un reboot, donc il revenait sur devant de la scène, c'est quelqu'un qui était quasiment vierge du MI6, et là on voit que c'est quelqu'un qui a bourlingué et tout, donc c'est vrai qu'il rattrape l'ancienne mythologie pour les 50 ans, donc ils sont obligés de faire un Bond fatigué, mais il faut pas oublier qu'il y a deux films, il était tout nouveau, donc c'est là l'ambiguïté du film.
Surtout qu'on a l'impression que il arrive dans un état où c'est comme s'il avait déjà, si j'avais déjà eu 6 films avec lui, quoi. C'est vrai qu'on arrive avec un sentiment assez bizarre, justement, d'un Bond fatigué, complètement à côté de ses pompes au départ, quoi.
Et alors, moi, ce que j'ai trouvé, bon, sans trop spoiler, c'est que cette intrigue qui tourne autour du personnage de M, on dirait que Bond, en fait, c'est toute la phase qui avait débuté avec Brosnan, puisque c'est à partir de l'époque Brosnan que M est devenu Judi Dench. Et donc là, on voit vraiment que la production et la mythologie Bond fait un retour sur tout le personnage de M, ce personnage-là. C'est-à-dire que, bon, avant, ça n'existait pas. Donc, comme c'est quand même Daniel Craig, donc c'est la première fois qu'il y a Q aussi qui apparaît dans le film. Donc, il y a beaucoup de nœuds, en fait, à démêler, puisque avant, il y avait Q, mais version Brosnan. Q n'y était plus dans les versions Craig, dans la version Craig, donc voilà.
J'ai l'impression que ce film se veut reposer les bases de quelque chose pour construire la suite de la saga James Bond.
En même temps, mais comme c'est le film des 50 ans, il fallait que ça soit le point où on puisse raccrocher. J'ai l'impression que c'est le truc qui permet un peu
de boucler la boucle, hein, de toute façon.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a fait une petite promenade là pendant 3 films qui ont été un petit peu en dehors des clous, et là on revient au classique. Et après on se demande qu'est-ce qui va suivre ensuite. Est-ce que Daniel Craig, qui avait signé pour 3 films normalement,
il a re-signé.
Bon. Et quel accent va mettre les scénaristes pour les prochains films?
En tout cas, c'est vrai que cette version plutôt badass, plutôt rentre-dedans de Craig par rapport aux autres James Bond, ça répondait très directement et c'était affiché comme une réponse à la tentative d'intimidation de l'agent Bourne, hein, qui était arrivé, qui avait donné des gros coups de pied dans la face en disant ouais c'est bon, vous et votre mythologie dépassée, vous faites pitié, moi j'arrive, je conduis des Austin Mini dans les petites rues, la caméra en shaky, des plans surcoupés et tout, j'arrive, j'ai pas le flair
de l'audace dans la prise de vue, voilà. Des jeunes réalisateurs par rapport aux réalisateurs qui ont œuvré dans la franchise, qui étaient déjà des réalisateurs confirmés, on va dire, hein, qui avaient déjà la bouteille, mais qui étaient un petit peu plus formalistes.
Et donc, comme l'essoufflement de Bourne arrive, puisque là, il y a eu la trilogie d'avec Matt Damon, il y a une tentative de recentrer la série sur un autre personnage incarné par Jeremy Renner. Et donc, c'est vrai que là, on voit un Bourne en perte de vitesse, et c'est cette époque-là que choisissent les producteurs et les scénaristes de Bourne pour dire, OK, vous avez fait votre petit effet, c'est bon, vous êtes calmé, vous avez fait 3 films, OK, vous nous avez damé le pion, OK. Bon, nous, on a une mythologie de 50 ans derrière, donc on va vous montrer ce que nous on a dans le moteur. Et donc c'est vrai que ça, c'est une réponse comme ça qu'on a dans le film en disant ouais. On raccroche quoi. Voilà,
et fort d'un graphisme assez pertinent, notamment dans le générique, d'une bande son toujours au top, moi je trouve, sur cet opus.
Incluse dans l'histoire d'ailleurs.
Tout à fait, qui est. Non, vraiment, il est complet, il remet un petit peu les pendules à l'heure pour la suite en tout cas, qui donne un nouveau souffle, parce qu'on disait que Quantum of Solace on s'était un petit peu perdu, que le film n'avait bien marché. Bah, oui.
D'un autre côté, c'est un peu normal, puisque dans l'histoire, Quantum of Solace, il est encore en deuil de
la perte de Eva Green, de Vesper Lynd.
Voilà.
Vesper Lynd, pardon.
Vesper.
Pas Vesper Lynd.
De Vesper. Et là, étonnamment, il se trouve que sur la production, donc je rappelle qu'en plus, on peut pas trop en dire, parce que le film ne sort que le 9 novembre aux États-Unis.
Oh, il n'y a pas des ricains qui nous écoutent, ça va, hein.
Si. Et il se trouve que le budget est de 50 millions de dollars, inférieur à Quantum of Solace.
D'accord. Comme quoi, il n'y a pas besoin forcément de.
Voilà, ils sont passés de 200 millions à 150 millions, puisque la production du film a réellement commencé une fois que la MGM est sortie, en fait, du redressement judiciaire. C'est-à-dire, ça a été signé très exactement le 21 décembre 2010, une fois qu'il y a un juge qui a dit bon, ça va, MGM est encore viable, puisqu'il venait de se faire acheter.
Les grandes réussites du film, donc une photo exceptionnelle. Il y a beaucoup d'expérimentations au niveau graphique, avec des plans superbes de Londres sous la pluie contrebalancés avec les premières scènes d'Istanbul. On a un duel à main nue à Shanghai, éclairé seulement par les néons de l'extérieur. Donc on voit vraiment presque du Michael Mann dans Collateral. C'est que les silhouettes se détachent du fond, mais ils sont en négatif, c'est-à-dire que les deux combattants sont en noir. Avec la scène importante, puisque Bond tente de neutraliser un tueur qui vient de tuer quelqu'un de l'immeuble d'en face. Donc on voit aussi la scène derrière. Là, je crois que c'est la caméra numérique qui a aussi fait son office.
C'est la première fois qu'il a été intégralement tourné en numérique. Et il a été tourné en 4K. Voilà. Donc on a une image qui est vraiment impressionnante.
C'est hyper nette et hyper.
Donc cette scène est vraiment très très belle. Ensuite, on a ce climat à l'aube, qui est vraiment cette ambiance de fin du monde à la fin du film. On vous dira pas où c'est, mais au niveau visuel, ça fonctionne quand même assez bien, avec des clairs obscurs.
Ça fait un peu post-apo, quoi, en fait.
Ouais, exactement, post-apo. Et puis ça suit bien cette ambiance de chaos généralisé qu'il y a dans le film. Et puis c'est vrai que on en parlait en off, en sortant de la séance avec du sport Xavier, c'est que on a vraiment des clins d'œil. On va dire que il y a le choc Nolan qui est passé par là au niveau du chaos, au niveau de cet impact que peut provoquer un agent complètement explosif en la personne du méchant, qui va torpiller les repères auxquels le spectateur aussi s'attend dans un James Bond. Et c'est vrai que là tu te dis tu es perdu, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a un attaquement frontal aux institutions de Bond, et
voire même c'est l'un des génériques les plus noirs. J'ai eu l'impression que c'était Tim Burton qui avait réalisé le générique, quoi.
Il y a également
le générique introduit bien ça, puisqu'on est complètement en dehors de ce qu'étaient les génériques de
abonde jusque-là.
Ouais, alors, il y a également la métaphore, et qui est vraie également dans les bouquins de Ian Fleming, hein, qui s'attachait vraiment à décrire l'époque et la géopolitique de l'époque. Et là, bon, ben, on est dans l'après 11 septembre, on y est encore, hein, ben, on y sera toujours de toute façon. Et bon, ben, c'est évident que dans l'attaque du bâtiment, bon, ben, on attaque directement au cœur, ça ne se passe pas à l'extérieur, ouais, ce ne sont pas des opérations extérieures. Eh ben, là, on attaque les ennemis, attaquent directement à l'intérieur et attaquent pratiquement à la tête.
Oui, puis tu as une immédiateté et un raccord à notre époque, à nous et au monde réel, qui est fait par le relais des médias aussi, que tu as rarement dans les bandes. C'est toujours, tu as l'impression que c'est dans un autre monde, dans une ère alternative.
Dans le sens où les armes utilisées sont complètement en accord avec ce qui pourrait se passer.
Oui, voilà, on est plus dans le terrorisme plutôt que des gars avec qui reste un chat en costume blanc qui vont balancer un satellite de science-fiction sur une ville hypothétique.
Walter PPK, c'est vraiment l'arme de gonzesse. Hein. Quand tu y penses, tu tues pas du premier coup avec. Hein. Pour une arme de tueur.
Alors là, tu te trompes complètement là.
Oh, hein. C'est pas ce que j'ai lu dans.
Parce que moi, je détestais.
Ah merde. Okay.
Non, parce que c'était vraiment, ça faisait partie des, c'était les meilleures marques d'armes de l'époque et c'était les armes qui étaient les plus précises en fait.
D'accord.
Avant d'attaquer les portraits de tout ce qu'il y a à côté des bandes, on va quand même temporiser un petit peu cet enthousiasme généralisé qu'on a autour du film. On va chipoter certains chipotages qui sont plus gros que d'autres. Un méchant qui, quand même, dans l'ensemble, qui nous a plutôt impressionné, mais selon les scènes, on va dire que le traitement est inégal. Il y a soit la direction d'acteur, soit le jeu vraiment de Bardem est tour à tour génial ou cabot. Ça dépend des scènes, il y a un dosage qui a, selon moi, qui a pas fonctionné à 100% pendant tout le film.
Il y a les éléments de la description de son personnage qui n'ont pas d'intérêt puisqu'ils ne sont pas exploités par la suite du film, donc on sait pas pourquoi et on en a parlé, quoi.
Oui.
J'ai l'impression que c'est une idée de fausse piste.
Oui.
Aussi. Ça y joue énormément pour justement encore plus déstabiliser le spectateur.
Parce que de toute façon, moi je pense que c'est de loin le pire méchant qu'ait pu connaître la saga James Bond.
On parlera des méchants tout à l'heure.
Oui,
si on aura le temps, on évoquera ça.
Oui, c'est un méchant qu'on sent qui pourrait nous attaquer, nous. Ouais. Alors que d'habitude, il s'attaque toujours à des gens que, bon, on s'en fout, quoi. malgré le fait que on avait souligné l'ambiance crépusculaire du dernier acte, selon moi, quand même assez bâclée au niveau de l'inventivité et le traitement qui est fait, puisqu'on se retrouverait dans n'importe quel polar lambda.
Tout à fait.
Franchement, malgré ce qui s'y passe, au niveau des enjeux et tout, sinon le traitement, voilà, classique, attendu. On va dire
pas de surprise. Ouais.
Voilà, on va dire qu'il y a la sauce qui monte pendant tout le film et quand on y est,
Mendes pousse le bouchon peut-être un petit peu trop loin dans son explication qu'il donne depuis le début du film en disant on retourne aux sources, on n'a pas besoin de gadgets, on est très puriste et en fait dans cette dernière scène, on voit que la façon qu'ils ont de régler leur compte est très minimaliste.
Oui.
On va dire. Et c'est peut-être pousser le bouchon un petit peu trop loin.
Alors c'est un peu, on se dit un peu, tout ça pour ça. Quoi.
Oui,
c'est un
exactement,
peu ça, quoi. Exactement, exactement quoi. Alors on peut aussi
noter,
se dire si on est
côté,
méchant,
tout ça pour ça.
Ah voilà, comme quoi.
Et on peut aussi dire si on est méchant que ils ont foutu tout le pognon quoi dans les premières scènes de film les scènes qui se passent surtout en Angleterre et puis qu'après pour la fin il y avait plus de pognon donc on a fait dans le minimalisme.
Eh ben, je crois que c'est tout ce qu'on pourra dire sans spoiler parce que sens que la ligne jaune est là.
Oui.
Donc
on va rappeler
les références. Donc Skyfall, réalisé par Sam Mendes, donc avec toujours Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench, Albert Finney qui fait un rôle important à la fin. On a Bérénice Marlowe, Naomi Harris et l'acteur qui joue Patrice.
Nola Rapace.
Voilà, Nola Rapace.
Et pour la bande son
et Ralph Fiennes, on avait oublié Ralph Fiennes.
Oui, Voldemort dans Harry Potter.
Quand même.
Ouais.
Et pour le coup, allez, boum boum, The Animals. Ah. Ça a rien à voir, c'est juste comme ça, c'est totalement gratuit.
Ouais.
On va dire ça. Down.
me out right off of my feet.
Ouais, Boom Boom de The Animals. Vous comprendrez en regardant le film. Et encore, c'est pas la seule surprise musicale. Ceci dit, on parlait de cahier des charges obligé.
Ouais, ouais, parce que bon,
mais ça fait débat.
Non.
Musicalement parlant, on peut comprendre cette, celle-là, mais l'autre, effectivement, bon, on tombe sur le popotin, quoi.
Elle est pas mal. Bon, allez, tant pis, on va... Qu'est-ce qu'on fait, les méchants d'abord ou le quiz?
Oui, le quiz, et puis après...
Le quiz, alors allons-y, ça aurait pu être...
Ah ben attends, il faut qu'on se concentre un peu là. T'as pas le jingle quiz derrière, là? Allez. Non, mais si tu veux mettre le boum-boum derrière, ça nous va aussi, hein.
Là, t'essaies de gagner du temps, en fait, je te vois, c'est bon. Tu vas perdre, c'est bon.
Ouh, le match a l'air d'être tendu.
Moi je rallie, allez, du sport, je rallie du sport à ma cause. À 2 contre 1 on y arrive, c'est sûr.
Alors êtes prévenu que quand même pour celui-ci ça va être relativement chaud, puisque c'est...
Ça va être chaud, oui.
Ce sont des films, des titres qui auraient pu être des titres de films de James Bond. Et on va commencer
par... il a dit que c'était les quiz sur les méchants d'abord.
Non, j'ai dit soit les méchants, soit les titres potentiels de James Bond.
Alors, le quiz sur les méchants, il y aura après alors?
Non, il y aura juste une classification pour aller faire vite.
Ah bon?
Parce que sinon ça va être compliqué.
Ah bon, d'accord. On fait 2 quiz en 1, d'accord.
Attention.
J'ai pas compris.
Alors, on y va. Donc, attention, ça aurait pu être des titres films de James Bond. Je vais commencer par la signification de E.ON Productions, qui est en fait la société qui gère les droits E.O.N.
Comment tu veux qu'on sache ça?
Zappez de suite.
Électronique, Omni, Nation.
Non. Everything or Nothing. Oui. On pourrait traduire en français par quitte ou double. Et c'est vraiment, c'était l'idée de Broccoli. C'est, il avait acheté les droits, il avait mis tout son fric dedans. Il a dit, c'est ça ou rien. Donc il était allé comme ça. C'est un James Bond qui est devenu Premier ministre et qui engage un nègre.
Ah, c'est The Ghostwriter.
Ouais, de Polanski.
De Polanski.
Ah, oui.
C'est un James Bond qui est en URSS, mais pour vendre des livres.
Sean Connery. Bon baiser de mousse. Non, lettre.
Non.
Non, attends. La Maison Russie.
Oui.
Ouais.
D'accord.
Avec Mélanie Griffith, je crois.
D'accord.
Aussi, c'est vrai. C'est un James Bond raté qui a auparavant été joué par un futur James Bond.
Quoi?
Alors, j'explique. Il y a les séries. Dans les séries, il y a eu un Bond. Et après, il y a eu un film qui est un James Bond raté.
Casino Royale.
Non.
Celui-ci, il est un peu chaud.
Octopussy.
Non.
Un James Bond raté. Refais la question, là.
Alors, c'est un James Bond...
Hey, triche, le magazine, là.
Ah non, justement, c'est pas un James Bond... C'est pas un James Bond...
Non, mais j'essaie de trouver de l'inspiration, mais...
Mais ça a été joué par un James Bond. Et l'adaptation en film est une merde.
C'est pas un truc avec Pierce Brosnan.
Non.
Avec Roger Moore.
Non. Oui.
C'est avec Roger Moore. Un film avec Roger Moore.
Bon,
c'est
une série.
Amicalement vôtre. Le Saint.
Le Saint.
Interprété avec, par Val Kilmer.
Avec Val Kilmer, qui est quand même, franchement, c'est plus que flagrant que c'est quand même, au bout d'un moment, un James Bond loupé, quoi.
Alors, je m'avance un petit peu, mais je crois que Leslie Sarcheris, qui est l'auteur de, du Saint,
Saint oui.
Ses bouquins sont sortis avant, la plupart de ses bouquins sont sortis oui. avant les aventures de James Bond de Ian Fleming.
Alors, largement, très largement. C'est une série dont les acteurs ont joué dans LG's Bond, au moins deux Bond Girls. Et il y a même eu un film.
Sex and the City.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que Carol Bouquet était dedans, mais.
Il y a eu deux James Bond Girls qui sont issues d'une série anglaise.
Absolutely Fabulous.
Non, c'est The Avengers.
Oui, chapeau melon et bottes de cuir. Et, voilà. Et d'ailleurs, alors, même l'acteur principal a joué dans un James Bond.
Oui, puisqu'on a Honor Blackman et Diana Rigg, en fait.
Mais attends, mais ils ont des antisèches, là. Il a le livre et le magazine.
Non, mais de toute façon, moi, j'ai les antisèches, ça ne sert à rien, donc.
Et
c'est pas
pour l'anecdote, Diana Rigg, qui jouait donc, au service secret de Sa Majesté, eh bien, a pas rencontré George Lazenby sur le tournage, mais ils se sont mariés après.
En vrai.
Alors qu'il
se marie
alors qu'il arrêtait pas de baiser les nanas pendant ce temps-là, quoi.
D'accord.
Ouais, mais bon, c'est Diana Rigg,
C'était l'année. Ouvrez-moi le canal D.
Mais avec plaisir, si on savait ce que c'est.
Du sport.
Canal D.
Ouvrez-moi le canal D. Les hommes de l'oncle, d'accord.
De l'oncle.
Oui, d'accord, ok.
Dedans, il y a un James Bond qui joue, qui est un agent infiltré du KGB qui va faire exploser une bombe nucléaire.
Octobre Rouge.
Non.
À la poursuite d'Octobre Rouge.
Infiltré. Il est pas infiltré.
Infiltré dans le KGB.
Il tente de fuir, dans Octobre Rouge.
Firefox.
Non.
C'est un agent du KGB qui est infiltré pour faire exploser une bombe nucléaire.
C'est un truc récent.
Le roman est sorti en 84. C'est un roman de Frédéric Forcis.
Ça m'aide pas du
c'est
tout.
Un film.
Le quatrième protocole.
Ouais.
Et dedans, t'as Pierce Brosnan qui joue un agent du KGB, quand même. C'est un James Bond en activité qui se fait tailler un costard en créditant un mythomane.
Ah, c'est Daniel Craig.
C'est The Rock.
Non, il se fait tailler vraiment un costard.
Il se fait tailler un costard en
et
prétendant
le tailleur de costard est un mythomane.
Oh, c'est un truc anglais, ça.
C'est le tailleur du Panama et dedans.
Ah, Pierce Brosnan avec Geoffrey Rush.
Il a joué entre deux James Bond et finalement il massacre le rôle de Bond quand même.
C'est le film de David Mamet, quoi.
Oui. De mémoire, non. Il me semble.
Non.
Ah, si.
Oui.
Et alors celui-ci, vous avez aucune chance de le trouver, donc
c'est toujours
Carte Blanche. C'est le roman qui suit Quantum of Solace et qui était l'objet de la rumeur de l'été 2011, comme quoi ça allait être le nouveau James Bond. Et surtout, c'est le premier reboot littéraire de la franchise puisqu'il place Bond dans le 21e siècle.
C'est quoi la question ?
Il n'y avait pas de question, mais c'était juste pour introduire la suite sur les méchants. Comme ça, non ?
D'accord.
Ok.
Faisons ça.
Les récapitulations des scores, vas-y.
Moi j'ai zéro déjà.
du sport à deux. Deux têtes. Mais on verra ça au ralenti. Alors, parmi les méchants, j'ai essayé de faire une typologie.
D'accord, vas-y. Oui, je vois que t'as un classement qui est, ma foi, assez intéressant. On voit que t'as bossé.
On voit que j'ai bossé. Il y a bien évidemment, puisqu'on est en pleine guerre froide, il y a le KGB, plus exactement le SMERSH, qui est une opération du KGB, qui veut dire, SMERSH veut dire mort aux espions, c'est une expression en fait qui est raccourcie, et où deux fois Bond est face à eux, dans Rien que pour vos yeux et Bon baiser de Russie. Il y a le SPECTRE, Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. La traduction française est pas mal d'ailleurs. Dans lequel on a Dr. No, Rosa Klebb dans Bon baiser de Russie, Emilio Largo dans Opération Tonnerre et surtout Ernst Stravo Blofeld. Et je soupçonne que le chat blanc fait partie du spectre.
Au moins.
On ne vit que deux fois.
Sachant qu'il y a eu un épisode des Powerpuff Girls, alias ces super nanas, où il y a une parodie monstrueuse de ces James Bond, où en fait c'est le chat blanc. Tu apprends que c'est le chat blanc qui guide tous les humains et c'est lui le vrai chef du spectre. Alors, des agents secrets transfuges qui bossent en solo. On a Kamal K dans Octopussy. Il y a le général Georgi Koskov dans Tuer n'est pas joué. Alec Trevelyan, alias Janus, dans GoldenEye.
Il y a Zao, Gustav Graves dans Meurt un autre jour.
Ah oui, c'est comment il a dit Gustav Graves? Alors Gustav Graves.
Gustav Graves.
Graves.
Il y a les Freelance. Il y a le requin qui est quand même un tueur qui se vend au plus haut.
Qui revient dans Moonraker quand même, ça c'est quand même assez drôle.
Ouais.
Richard Kill, ouais.
Il y a Francisco Scaramanga qui lui aussi est un freelance, hein, c'est un tueur à gages. Octopussy.
Ouais.
Franz Sanchez, mais lui c'est différent, c'est un trafiquant. Hein, donc je savais pas le mettre parmi les businessmen ou parmi les freelance, finalement je l'ai mis dans les freelance. Et il y a Xenia, on a top dans.
Ça, c'est ma préférée.
GoldenEye, ah oui, ça t'adore.
Vu ce qu'elle fait à Brosnan, là, c'est ma préférée.
Le massacre bien. Il y a les industriels qui ont dérapé. Ulri Goldfinger, le docteur Kananga, mais lui, c'est un dictateur. Hein, c'est dans Vivre et laisser mourir. Il y a Karl Stromberg dans L'espion qui m'aimait. Hugo Drax dans Moonraker. Elliot Carver dans Demain ne meurt jamais. Et Elektra dans Le monde ne suffit pas.
Ouais, Sophie Marceau.
Ah, et pas mal. Il y a les malades mentaux. Quoique Max Zorin, il aurait pu être industriel qui a mal tourné, mais en fait, c'est juste un malade mental absolu. Lui et Baron Samedi, il a eu pas tant que ça finalement, hein, des grands fous furieux. Et il y a une organisation anonyme qu'on voit dans deux films, Casino Royale et Quantum of Solace. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus. Le chiffre, Mr. White, Dominic Green, et on sait juste dans Quantum of Solace qu'ils sont un certain nombre.
Mais on ne sait pas combien est-ce qu'ils veulent.
Voilà, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Donc peut-être que ça va revenir. Après tout, ce serait peut-être le truc qui serait bien vu. Qui d'autre à quoi? Tu veux peut-être parler des bons gueules?
Moi je voulais parler des méchants emblématiques de la série.
Vas-y, on a le temps.
On peut remarquer que quand même, il y a eu un méchant qui est apparu dans deux films et qui a été interprété par deux acteurs différents.
Oui, donc
Donald Pleasance et Telly Savalas pour le docteur Blofeld, Ernest Stavro Blofeld. Et il faut signaler qu'au niveau des costumes, ils avaient le choix des costumes. Et donc ils ont choisi ce fameux veste à col Mao, veste chinoise,
ouais, qui était pas mal, ouais.
Qui était pas mal, et c'est pour ça qu'elle a été reprise. C'est-à-dire que les acteurs, il a été interprété par trois acteurs, pardon, puisqu'il y a également Charles Grey qui a interprété
qui en intro de
Stavro Blofeld dans Les Diamants sont éternels.
Oui,
quoi.
Qui s'est buté au ouais, début en
voilà,
intro.
Voilà, c'est ça. Et en fait, chaque acteur avait le choix plus ou moins de son costume. Bon, il y avait on leur disait OK, vous avez le choix entre ça, et ils choisissaient tous le même. Bon, parce que c'était le truc bien classe, ça allait bien.
Ils avaient le choix du chat aussi.
Alors le chat, est-ce que tu sais ce qui est arrivé à Donald Pleasance sur le tournage?
Il s'est fait griffer, il est allergique, je sais pas.
Non, et le chat s'est pissé dessus lors de la scène quand ils ont fait une scène d'une explosion. Il y a une explosion et tu vois le chat qui essaie de fuir et tout. C'est la seule scène qu'ils ont pu prendre avec le chat.
Ah, merde.
Il est en train de pisser. On voit
que le chat, il a pas été vraiment dressé.
Il s'est oublié. Il a pas été prévenu qu'il allait avoir une explosion.
On le voit bien dans le film. Hein, c'est un truc.
et Donald Pleasance dit que c'est la scène qui a eu le plus de mordants, à ce qui paraît, ce qu'il avait dit dans une biographie. Donc j'imagine quand même, ça n'a pas dû être simple de ce côté-là. Sur les autres méchants emblématiques,
je trouve
plus ou moins bien. Mais...
Ouais, je trouve que Bardem s'en sort bien. Je pense qu'il est dans le haut du panier, dans les 5 emblématiques, je dirais.
Quoique j'aime bien Dominic Green, qui fait le méchant super occupé avec un tampon et des papiers, ouais. Et qui dit, non mais pas en français dans la version originale. Non, pas maintenant, là je suis occupé. Alors qu'il fait juste le con.
Ouais, mais si tu pouvais dire le nom des acteurs plutôt, parce que Dominic Green, personne ne sait que c'est Mathieu Amalric. Donc Amalric était pas mal, on en parlait en regard un peu halluciné.
Avec une belle fin pour lui d'ailleurs, c'était sympa.
Ah
c'était,
oui.
C'était, il était dans le désert, non?
Ouais. Ouais. Il reste un bidon d'huile.
Ouais,
combien de temps tu vas le boire?
Donc spécial dédicace à Christine, Mads Mikkelsen quand même, qui on peut le dire pour certains, c'est le numéro 1. Hein,
oui.
Ouais.
Oui.
En méchant, il y avait Gert Frob aussi qui est dans Goldfinger, qui était pas mal.
J'allais dire Derek, mais je cherche le nom qu'il a
et
dans.
Moi j'ai une le film est pourri. Moi j'ai une tendresse particulière malgré le film pourri pour Christopher Lee.
Non, oui, tout à fait.
Parce qu'en fait, c'est un peu lui qui sauve le film, quoi.
Monsieur Scaramanga.
Ouais.
Sachant qu'il est cousin, ce qui paraît, de Ian Fleming. Oui. C'est un cousin éloigné, à ce qui paraît.
Ouais, peut-être. Hein. Christopher Lee, qui avait déjà été pressenti pour jouer dans d'autres James Bond, mais qui avait toujours décliné l'offre.
Non, pas de suite.
Non, bof, j'ai pas que ça à foutre. Bref.
Et dans le film, on voit qu'il a trois tétons, le mec. Mmh. C'est dans ce film-là. Hein,
ouais, oui, tout tétons. À fait. Mmh.
L'esprit très observateur.
Non, mais c'est. D'ailleurs, il y a Roger Moore, à un moment donné, se met un troisième téton pour se faire passer pour Scaramanga dans la soirée.
Puisque c'est comme ça que le tueur est connu, mais personne n'avait vu son visage. Donc.
Voilà, et c'est dans ce film aussi que Scaramanga est aidé par le nain, Hervé Villechaise.
Hervé Villechaise, ouais, ouais. Voilà. J'allais le placer parce que.
Sur son film spécial nain, ouais.
C'est son film spécial nain, tout à fait. Tout à fait.
Ouais, bon.
Excusez-nous.
Bref, Sushinette, y a-t-il des Bond girls d'exception ?
Il y en a eu beaucoup, donc c'est difficile de faire le
tri. Est-ce que t'as fait une typologie ?
Non, moi, c'est dans les dernières, j'ai beaucoup aimé Halle Berry et Eva Green. Je les ai trouvées quand même tranchantes de leur intervention.
Allez, vas-y, du sport fait la moue.
Mais
qui tu n'as pas aimé dans ces deux noms ? Les deux.
Non, mais moi, je trouve que Halle Berry est carrément insipide.
Non, mais dans son. Je parle dans la plastique, moi, je parle
ah
pas.
Ah non,
dans...
d'accord, au niveau plastique, rien à dire, hein, ça y
ah,
a
moi,
pas
non
de problème.
Ouais. Moi, j'ai une tendance particulière au niveau plastique pour Denise Richards en ingénieur en fusil nucléaire, bombé comme Lara Croft. Je trouve, c'est voilà.
Non, mais bah, surtout, après, c'est compliqué de.
Surtout que Halle Berry, quoi, elle a fait que regarder Barbara Carrera et elle s'est dit, je fais pareil. Donc, ça la fout un peu mal, quoi. Enfin, moi,
après,
c'est mon
peut-être
avis
dans la construction de son personnage, comme, c'est peut-être pas non plus.
Elle porte très bien le maillot de bain, en tout cas.
Comme oui, ça, du sport aime bien les nains, j'ai un petit duo pour lui. This is a very sensitive subject. C'est une parodie de James Bond, hein. I heard Frau say I had a clone. I knew that I'd be safe because I'd never be alone. An evil doctor shouldn't speak aloud about his feelings, my hurt and my pain. On est en 68 quand même dans la base lunaire du méchant et parmi les hommes de main, il y a un DJ qui scratch. Had an evil empire just like his dear old dad. Give him my love and the things I never had. Scott would think I was a cool guy. Return the love I have, make me want to cry, be evil. But have my feelings too. Changed my life with Oprah and Maya Angelou. But Scott rejected me. C'est la vie. Life is cruel, treats you unfairly. Even so, a God there must be. Mini me, you complete me. Just the two of us. Uh-huh. We can make it. Yeah. We try. Just me. Yeah. Just me and you. Getting jiggy with it. Just the two of us. Yeah. Mm. Quite pleasant, really. You and I. Je me fais juste fesser en fait hors micro en me disant mais t'es salaud, mais tu as coupé Sushi.
Et encore, je sais pas, j'étais en train de me faire démonter par du sport, alors quelque part c'est pas plus mal.
Non, mais c'est bien parce que Sushi peut s'estimer heureuse parce que nous, des fois, c'est des chroniques qui sont escamotées carrément parce qu'il les a oubliées dans le planning.
Non, mais après, c'est pas forcément chronique à dire tout le monde a un avis partagé, ça dépend du scénario, ça dépend du rôle qui est alloué. Par exemple, là, pour ce qui concerne Skyfall, bon, c'est vrai que l'importance de la James Bond girl est toute relative, on va dire.
Ouais. Par contre, Naomi Harris, nous ne
voilà,
mentionnerons pas son rôle, mais elle s'en sort très bien.
Oui, mais a priori, c'est pas une James Bond girl puisqu'elle travaille avec. Donc c'est vrai qu'il y a des.
Mais il y a eu des alliés, il y a eu des méchants.
Ouais, voilà. Donc il y a beaucoup de femmes qui interviennent de toute façon.
Il y a beaucoup de françaises qui se retournent.
Ça c'est très fin, ça dit
long. Ah bah non, c'est vrai, c'est vrai. Tu remarques que c'est les plus
pires.
Méchantes. Hein,
Non mais après je pense qu'ils ont toujours su trouver la personne à la plastique assez avantageuse qui faisait ramener aussi un public assez masculin qui captait l'attention comme tu disais tout à l'heure du sport en antenne. C'est le cahier des charges à faire. Il faut qu'il y ait une scène avec une nana. Assez rapproché. Bon là dans le dernier il y a plusieurs filles qui interviennent. Ça, je pense que ça dépend.
Et pour continuer sur la fameuse nana incarnée par femme que j'aime scène tout à l'heure, une scène rapprochée, c'est d'un fort beau gabarit d'ailleurs.
Oui oui.
Mais par exemple dans Goldfinger à un moment il est avec une nana dans sa chambre et puis la nana bon bah il y a un mec qui vient pour le tuer, bah il la met en tant que barrière humaine que, et puis elle meurt quoi, ouais. Voilà,
donc, fait, oui mais c'est comme ça dans le roman.
Donc voilà, donc c'est-à-dire que les femmes ont quand même un destin assez tragique et variable en fonction de l'humeur de l'agent double.
Alors il y a peut-être une explication en fait qui est beaucoup de nanas, enfin que les nanas fassent partie du cahier des charges parce que Ursula Andress qui est la première donc Bond girl qui apparaît dans Doctor No avait été choisie par Ian Fleming. Et pourquoi ? Parce que Ian Fleming connaissait Ursula Andress personnellement et que Ian Fleming avait mis Ursula Andress comme personnage dans le roman au service secret de Sa Majesté où quand ils sont dans la station de ski de Blofeld eh bien ils participent à une soirée mondaine OK, on retrouve Ursula Andress qui fait partie des invités.
Tu sais que c'est elle
dans
qui
dans le bouquin.
Tu sais que c'est elle qui est allée voir le costumier en lui disant vous me réajustez le maillot de bain et tout, je le veux plus serré, plus court.
Mais après ça, ce qui est rigolo, c'est que James Bond ne tombe pas forcément, ne tombe pas souvent amoureux de ces James Bond girls. Il y en a très très peu auxquels il s'attache.
Il y en a que deux et elles ont.
Et c'est ça on ressent. Oui, mais après c'est quand même comme quoi il aime les femmes, mais quand il est amoureux d'elles, après ça, il tombe du côté obscur de la force. Quoi. C'est-à-dire que voilà, il n'est pas infaillible.
J'avais dit qu'on ne parlerait pas de Star Wars aujourd'hui. Bref.
Non, mais après, c'est vrai c'était que quand tu as fait chier au casting, t'as quand même eu Kim Basinger, des grands noms.
Surtout, il y a quand même la Bond girl qui est jamais sur le terrain, qui vit que par procuration systématiquement. Monet Penny.
Oui.
Monet Penny n'est jamais agent de terrain. Elle est la secrétaire du patron et chaque fois qu'elle passe. Chaque fois elle les voit passer, à chaque fois voilà, Bond c'est son préféré, mais il crève cœur, à chaque fois il lui promet quelque chose, il n'aura rien d'autre que des fleurs quoi.
Ça c'est le jeté de veste sur le porte-manteau.
Le chapeau. Avec.
À quand le chapeau pour Daniel Craig?
Ah, ça le ferait pas mal.
Je sais pas si ça lui irait, on verra.
Qui veut bien faire le président de séance?
C'est-à-dire
que ben il se trouve qu'il y en a un qui aime bien les James Bond et il y en a un qui les aime pas. Donc je te laisse deviner ce qu'on a fait.
Pour et contre.
Exactement
comme dans le film.
On a un procureur et on a un avocat de la défense.
D'accord.
Avocat de la défense.
Et moi je suis le procureur.
Désolé. Non, c'est Thomas qui a fait la procure. Donc
la parole est au procureur, c'est ça que je dois dire?
Voilà, exactement. Vous avez le droit de remettre en place, hein, bien évidemment.
Eh bien, l'accusé, sachez, est une relique du passé. Un robot tout juste bon à s'alcooliser les Walter PPK avant de sauter sur tout ce qui bouge. Alors certes, il porte bien le costume, mais faire grimper le budget dommages collatéraux des destinations touristiques à coups de tank dans des boissons gazeuses, on a fait mieux dans le genre discrétion. Tenez, prenez exemple sur un confrère aux mêmes initiales, Jason Bourne, encore lui. Infiniment plus discret, lui se la pète pas. L'Austin Mini, lui aussi sait la conduire et c'est plutôt l'homme d'une seule femme. Ah donc plutôt que balancer une vanne sur un verre de scotch quand elle est assassinée, il préfère remuer la terre entière et semer le bazar dans des aéroports. Ça c'est un homme.
Non mais réagissez, non.
J'en terminerai ma plaidoirie avec une note féministe en ces temps de parité imposée. Lessivée, sacrifiée, objet tout juste bonne à...
Attends, objection. Rien n'est dit qu'il les jette.
Si, il les jette pour se protéger des balles.
Si on l'a dit ça dans plusieurs films.
Tout juste bonne à jouer les silhouettes sur du Duran Duran, les aventures de l'accusé sont réputées pour être des broyeurs à carrière féminine. Rendez-vous compte que pour survivre au passage de l'espion, il faut tenter de le violer ou avoir la voix de Dark Vador. Et oui, double exploit, je vous laisse retrouver les actrices dans vos têtes. L'accusé, par contre, il sait jouer avec la mâchoire. Et il a un costard. Bravo.
La parole est à la partie adverse.
Merci, votre honneur. Alors, pour commencer, mon client est strictement innocent des meurtres qu'on lui attribue, car je me demande bien comment on peut tirer, juste après cette cuité de 25 Martini Dry et 3 Magnum de Dom Pérignon, hein, par soir, comme peuvent le prouver d'ailleurs les notes de frais, pièce à conviction D et K, je vous prie. Personne ne peut nier que mon client a servi la reine avec passion et fougue. Quand il sort avec une femme, qui plus est probablement agent du corps adverse, James Bond a sciemment feint de le faire avec plaisir et entrain.
Quant aux accusations de dépenses dispendieuses en matériel, je rappelle que les munitions sont achetées pour être utilisées, hein, sauf les missiles intercontinentaux nucléaires, et que si nos services d'équipement n'avaient pas sous-traité à BMW le marché usuellement attribué à Aston Martin, l'industrie automobile anglaise se vendrait sur d'autres segments que la Rolls-Royce qui roule à train de sénateur. Oui, parce que tout le monde sait ici que ceux que l'on appelle des Vauxhall ne sont que des Opel qui roulent à gauche. Bon, je le redis, en tentant de garder mon flegme britannique, un agent secret de classe internationale qui roule en Austin Mini, même Austin Powers n'a pas tenté de nous ridiculiser autant. Mon client est innocent et tous ceux qui vous prouveront le contraire seront promus aux îles Falkland.
Avez-vous quelque chose à répondre à ça?
Ouais. Ben écoute, à quoi tu condamnerais James Bond?
La décision revient au juré.
C'est compliqué.
Ouais.
Bon, est-ce que pour toi, il est à sauver ou il est à jeter?
Oh, il est à sauver, globalement.
Bah forcément, il a la tête de Daniel Craig.
Et oui, il est à sauver. Non, il a encore une mission qui va l'attendre beaucoup plus périlleuse la prochaine fois.
Au moins trois. je ne sais que dire de plus, sinon que du sport me semble à encore quelque chose sur le carreau.
Ah bon?
Non, non. T'avais pas dit que tu avais des films?
Sur les ponts. Moi, je sais pas, non.
Non, c'est film sur les nains, c'est dans 15 jours.
Oui.
Tu prends de l'avance déjà, Dastrid.
D'accord.
Oh là, je suis désolé.
C'était du sang shaker aujourd'hui. Hein.
Ouais, mais les nains ne sont pas des animaux.
Oh non, je vous laisserai pas dire ça. On aura osé, en tout cas. Donc, le nouveau James Bond, ben, l'avis général.
Plutôt positif. Que ce soit pour de la part de fans que de profanes, mais plutôt positif. Le plutôt est entre guillemets
très convaincant et à recommander vraiment sur les trois derniers. Je l'ai trouvé époustouflant celui-là.
Oui,
dans ton avis,
ton
général.
Avis sur, en général sur ce bond là synthétique.
On passe un très très bon moment, il n'y a pas de problème. C'est un film à voir.
Moi je dirais on est encore surpris. Comme je l'ai dit, on a des rails et malgré tout, on est encore surpris par le personnage. Et là, les nouvelles facettes, ben voilà. Donc ça ira très bien pour les fans qui croyaient le connaître par cœur. Et effectivement, pour tous les autres, c'est un bon film d'action.
Et c'est de surcroît, j'ajouterais que c'est une bonne pub pour le climat écossais.
Et une retraite.
Et anglais.
Je crois que... Oui, non, mais je me suis complètement embrouillé. Cette émission a été faite par-dessus la jambe, comme d'habitude. Et...
Oh, mais non, c'est les gens qui nous écoutent, dis pas ça. Ah. Ça a été fait professionnellement, dans l'amour de l'art, comme d'habitude.
Mais oui, tu casses le mythe, là.
Eh ben, on dira que Bond reviendra, et puis voilà. Mais je pense que dans ce cas-là, il va peut-être falloir, parce que Sushi n'est pas là que pour parler que des hommes en tuxedo, et elle va aussi parler des hommes
qui font du basket et qui font du terrain.
Du terrain, et en équipe au moins, eux. C'est pas comme les autres. Donc je vais peut-être demander à Thomas s'il a fait un quelconque résumé.
Bah écoute, j'avais commencé tout à l'heure, j'avais noté qu'il y avait une entourloupe dans l'Azimut au début et que c'était une spéciale Bond et que nous avions le plaisir d'accueillir Sushi dans notre émission Supplément Week-end. Sinon, vous réécouterez comme des grands l'émission pour voir ce que vous avez loupé. Il y a eu des quiz, des surprises. On a échappé à un quiz sur les méchants, je suis très déçu.
Je peux te faire un quiz à voler sur les espions français puisqu'on est en France.
Non, mais c'est bon, on le fera pendant le repas tout à l'heure autour d'un bon chinois ou un kebab.
Voilà. J'ai complètement, forcément, vu la programmation spéciale, on a complètement zappé l'agenda. Donc tout ça pour dire, samedi 10 novembre, Hugues Labiano, Sénat, dédicace le premier bouquin qu'il scénarise d'ailleurs, Les Quatre Coins du Monde, c'est à la librairie Gilbert Joseph. Du 13 au 17, le 14e festival Extrême Cinéma sera consacré aux zoofilms et on sera sur place. Le jeudi 22 novembre, Timothée Montaigne dédicacera Julius, qui est la préquelle du 3e Testament, où d'ailleurs le personnage principal ressemble beaucoup à Sean Connery. Donc c'est aux éditions Glénat et il dédicacera à la librairie Gilbert Joseph. Et tout ça pour dire que 24 et 25 novembre, on sera en direct au Capitole du Livre. Et le 1er et 2 décembre, on sera en direct au Toulouse Game Show. Donc on aura trois spéciales
les unes à la suite des autres.
Attends, j'ai pas suivi. La semaine prochaine, on a une émission normale ou pas?
Oh, oui, vous avez une normale.
D'accord. Ok.
Ah, va falloir tenir là, hein, je vous dis pas. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao, bye bye, merci à vous. Et on va essayer de mettre quand même des choses en ligne d'ici là. A plus, ciao, bye.